Mediterraneo Isulana, Corsica, Sardegna, Sicilia.
1.200.000 bambini in Italia vivono sotto la soglia di povertà, un dato che negli ultimi 10 anni si è triplicato. La situazione è ancora più grave nelle nostre isole, dove l'abbandono scolastico supera abbondantemente il 20% e dove quasi la metà dei ragazzi non legge un libro, oltre a quelli imposti dalla scuola. L'associazione Save the Children ha lanciato l'allarme e noi lo facciamo nostro. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole, Sardegna, Sicilia e Corsica assieme ogni settimana, grazie a Radio Rai e a Radio Cors Frequenza Mora, con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Petru Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici.
Dopo essere si arrinato in Calalonga, vicino alle rocche di Onivagio, un rodagnus ha ripigliato il mare e viva, ma il pericolo è sempre qui. Salute a tutti ascoltatori fedeli, in cui Mediterraneo non c'è pericolo, non c'è che piacere di essere sempre.
Siamo ancora in piena estate, Petro Luigi e Vito, qui da noi si va ancora al mare, tutti quei problemi che abbiamo in qualche modo per ora li teniamo a distanza, ma insomma dovremo affrontarli prima o dopo, a cominciare appunto da quelli indicati da Vito poco fa.
I temi di oggi allora: per tutelare l'ambiente è fondamentale un corretto smaltimento dei rifiuti, scopriremo le nuove strategie in Sardegna per riuscire a riciclare tutta la carta conferita dai cittadini. Dalla Sicilia due storie intrise di spiritualità: quella di un camminatore solitario che negli anni 80 e 90, quando non c'erano internet e cellulari, ha percorso a piedi 24.000 chilometri in centinaia di paesi, e quella di un film che racconta la scelta di una ventina di eremiti che cercano se stessi vivendo totalmente immersi nella natura. Moltissimi italiani soffrono di mal di schiena e per i casi più gravi oggi la strada della chirurgia è consigliata, come ci spiegherà l'ortopedico specializzato in chirurgia vertebrale, il cagliaritano Pierpaolo Mura. E poi parleremo di libertà di stampa in Italia con un'intervista al segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa e il sindacato unitario dei giornalisti, Raffaele Lorusso. E per l'apertura di oggi andiamo in Corsica, l'isola fa i conti con i dazi sui vini francesi imposti dal presidente degli Stati Uniti Trump. Da Bastia, Petru Luigi Alessandri.
I produttori di vini corsi sono impensieriti dopo la decisione di un presidente americano Trump, che vuole impone l'importazione di vini francesi in risposta alle sovvenzioni che la riceve a suggerire da Airbus, che costruisce l'avio di lo stesso nome. Sto fatto impatterebbe un costruttore americano Boeing, dice Trump. I vini francesi sarebbero dunque imposti di una tassa di dogana di 25%. A Corsica esporta 1,5 milioni di bottiglie per anno agli Stati Uniti. In esempio, a Gawa Cooperativa d'Aleria, in costa orientale, aspetta in cui una domanda di 10.000 bottiglie che sopperava bloccate. Di una difficoltà supplementare, dice Eric Cuboli, il presidente di un comitato interprofessione di vini corsi, ma vuole relativizzare il rischio.
Sicuramente chi appena pagherà, questa è quasi sicura, ma non sarebbe mica in no anche da ci dopo, anche il 25% di augmentazione di Stadax sarà in lontana utile a 3 o 4 centimi, non è mica un affare troppo importante, per un po' momento, e fase di passo che è un primo resiste a decisione che Trump dia ora. L'importatore non ha riflette, ma sapete, lui se li trovano con noi, di chi l'interessa li trovano con noi, di chi vini li interessano, di chi c'è un idroso pronto, e fase che non sarà mica i 3-4 gente, ma di sicuro ci sarà una negoziazione con lui ora. Penso che una damica è qualcosa che c'ha da portare, sai, conseguenze, non penso mica.
Riciclare i rifiuti per tutelare l'ambiente, ma anche per generare un circolo virtuoso capace di creare economia. La strada ormai è irreversibile. La Sardegna separa oltre il 60% dei rifiuti che produce, ma le filiere non sono complete. Per quanto riguarda la carta, ad esempio, solo una piccola parte viene trasformata nell'isola e il resto viene venduta nelle aste e talvolta finisce addirittura in Cina. La cosa migliore sarebbe invece rispettare il principio di prossimità, cioè riciclare riciclare il più vicino possibile laddove si raccoglie. Per parlare di questi temi, l'ANCI Sardegna, l'associazione che riunisce gli amministratori locali, ha organizzato una serie di conferenze a cui ha partecipato anche Daniela Barsanti, presidente del Consorzio regionale Carta e Cartone Sardegna.
Il principio di prossimità in realtà è un principio semplicissimo. Il rifiuto deve essere recuperato, riciclato più vicino possibile al luogo in cui viene prodotto. Questo ovviamente deve essere fatto con una gestione che tuteli la salute umana, l'ambiente, il rischio per l'aria e per l'acqua e che sia conveniente per tutti. Questo si può fare, almeno noi come Consorzio regionale Carta e Cartone Sardegna stiamo cercando di farlo, per quanto la Sardegna possa assorbire questo rifiuto e possa essere lavorato direttamente in Sardegna.
Quanta carta si raccoglie oggi in Sardegna?
Allora, in Sardegna oggi, dati ARPAS un po' vecchi del 2017, sono 83.000 tonnellate e il Consorzio regionale Carta e Cartone ne intercetta circa 14.000, ma la potenzialità delle due cartiere in Sardegna, tra la cartiera papiro-sarda di Cagliari e la cartiera Logudolo di Sassari, siamo intorno ai 30-35.000 tonnellate. Quindi perlomeno il principio di prossimità per queste tonnellate di carta, per la carta che può essere riciclata in Sardegna ci si può dare vita nuova. Cioè dalla carta vecchia si produce la carta che noi conosciamo per fare le scatole di cartone, la carta per la macelleria, la carta per le buste, questo si può fare.
E la carta che non resta in Sardegna dove va a finire?
Il problema principale è che non resta in Sardegna neanche la carta necessaria per far lavorare le attività sarde. In ogni caso anche su quella carta che va fuori si può applicare il principio di prossimità, perché si può vedere le cartiere più vicine nella penisola, a Olbia, al porto di Civitavecchia, al porto di Cagliari, si può fare questo ragionamento. In ogni caso si può applicare sempre. Il problema è che la carta non rimane in Sardegna, perché tramite le aste del Consorzio Nazionale poi questa carta viene venduta in Cina o in altre nazioni ma non sappiamo se poi è rispettato il principio sia di prossimità, di sicuro non è rispettato, ma se effettivamente è stata riciclata per far carta nuova.
Il tema dei rifiuti è un tema cruciale per la sopravvivenza delle comunità, la Sicilia è in grave ritardo nella raccolta differenziata e inoltre deve fare i conti quasi ogni giorno, soprattutto nelle grandi città, con cataste di spazzatura che sono agli angoli delle strade, maleodoranti e talvolta addirittura portatori di infezioni. Ora, questo è un tema decisivo che tutte le amministrazioni hanno cercato di affrontare in un modo o nell'altro senza riuscirci e forse è una sconfitta veramente per la stessa essenza della comunità.
O problema di rifiuti in Corsica di Maio, a Corsica produce 180.000 tonne di rifiuti all'anno e non c'è più spazio, allora si parla di bruciatore, di inceneratore, si parla di spedirle non da un continente ma costa caro. Questo tema di rifiuti sarà quello di una campagna elettorale per il municipale che si apre fra poco.
La band cagliaritana dei Dorian Gray ha suonato nei giorni scorsi a Città del Messico, unica formazione europea nel cartellone dell'IFA 2019, incontro musicale internazionale che si tiene per la seconda volta in Messico e in Brasile. Con il cantante Davide Catinari e con Samuele Dessì alla chitarra acustica, basso, laptop e cori, c'erano Nico Meloni alla chitarra elettrica e Mario Marino alla batteria, insieme all'artista visivo Gildo Azzori, ancora una volta impegnato a impreziosire con i suoi disegni dal vivo, le note, i testi e le atmosfere della performance del gruppo rock. Dei Dorian Gray oggi vi facciamo ascoltare il brano Forma e Apparenza dall'album Moon Age Mantra.
Che mi fa sopravvivere e non c'è più il tempo per decidere se il veleno è nell'amore e non lo puoi distinguere. Tu sei per me istinto senza sangue, superba vista mare finito fragile, è solo pelle anima, la primavera.
Oggi parliamo di un particolare tipo di esperienze. Ad alcuni potranno sembrare estreme, ma in realtà hanno una forte valenza di ricerca e di introspezione. Due storie, una di un uomo in movimento e l'altra invece di eremiti che si sono isolati per vivere con la natura e della natura. Cominciamo dalla prima, è quella di Damiano Cosenza, un camminatore che in 18 anni ha viaggiato da solo per le strade del mondo documentando i suoi incontri. Il giornalista Antonio Fiasconaro ne racconta per l'editore Arianna l'avventura nel libro Il camminatore solitario. Durante le sue traversate poteva contare solo su mappe tradizionali e sulla sua forza fisica e mentale.
È una storia meravigliosa di un personaggio eccezionale che nel 1980 decise di mettere sulle spalle uno zaino e percorrere le strade del mondo a piedi. In 8 viaggi dal 1980 al 1998 lui realizzò 24.272 chilometri per le strade del mondo.
Che cosa lo animava? Curiosità? Solo curiosità?
Soprattutto era una sfida con se stesso. Dopo essere andato giovane in pensione, faceva l'impiegato di banca, intraprese questi viaggi. Io lo definisco oggi un folle buono, cioè capace di realizzare cose che al tempo non era facilissimo. Lui lo definisco un pioniere, non c'erano internet, non c'erano gli smartphone, non c'erano i computer. Lui realizzò delle cose eccezionali.
Come si orientava? Sulle mappe?
Lui disegnava innanzitutto, si disegnava le mappe. Aveva una bussola, dentro il suo zaino che pesava circa 15, massimo 20 kg, addirittura portava il necessario e anche un treppiedi. Tutte le foto che lui ha realizzato per gli 8 viaggi sono tutte realizzate con autoscatto e diceva sempre: sono importanti le mie foto perché sono testimoni delle mie avventure, tutto il resto non ha importanza. Un piccolo aneddoto su Damiano: sicuramente il viaggio che lui intraprese per il circolo polare artico, ghiacciai del Polo Nord dal 6 giugno al 6 agosto del 1988. Questo viaggio lui doveva compierlo l'anno precedente, nel 1987, ma in quell'anno morì giovanissima la figlia. E nell'88, quando fece questo viaggio, fu uno dei viaggi più difficili perché rischiò ben 3 volte di morire. Lui prega spesso la figlia affinché possa aiutarlo a realizzare questa impresa.
La seconda storia è quella degli eremiti che hanno cercato l'isolamento. Due registi, Joshua Valen e Alessandro Seidita, hanno viaggiato in camper per 4 mesi per raccogliere le loro testimonianze finite nel film Voci dal Silenzio, che in questi mesi è stato visto da migliaia e migliaia di persone in molte città italiane e all'estero grazie a una campagna di crowdfunding. Il film è proposto anche adesso su Infinity. Il tour riprende il 12 novembre a Padova, poi Verona, Vicenza e Milano e altre città. Tanti i premi e riconoscimenti e selezioni in decine di festival di tutto il mondo. 20 racconti, tutti all'insegna della meditazione e dell'immersione totale e senza condizionamenti nella natura. Joshua Valen ci racconta le ragioni che hanno spinto tanti uomini e donne a fare questa scelta.
Ognuno abbraccia in fondo l'esperienza eremitica a partire da un proprio background culturale e da motivazioni personali, però ci sono sicuramente degli elementi comuni. C'è la convinzione, la speranza che all'interno di ritmi più umani, spesso a contatto con la natura, si possono fare delle scoperte che poi hanno un carattere universale, qualcosa che riguarda l'uomo in generale, non solo colui che si ritira in vita solitaria tra i boschi o nelle vette di una montagna. E quindi c'è la necessità di riconfigurarsi come uomo e ritornare ad un ascolto profondo, non solo di se stesso e quindi delle correnti che animano l'io più profondo, ma proprio un ascolto di tutto quello che ci circonda, a partire dagli altri, dalla natura, dal creato.
La sopravvivenza comunque è difficile, è quasi al limite.
E anche qui le esperienze sono diverse. Un tratto che accomuna tutte le figure che noi abbiamo incontrato è la necessità, l'urgenza di badare a se stessi. Tutti hanno un orto, tutti hanno un eremo che sorge nei pressi di una sorgente d'acqua per l'approvvigionamento. Poi c'è, questo potrà stupire, però c'è chi non tocca denaro da oltre 25 anni e che non ha chiaramente elettricità, c'è invece chi ad esempio ha una corrente elettrica e magari traduce testi, come nel caso di Frederick, e testi filosofici, e questo lavoro gli permette di poter permettersi quei pochi bisogni in più che non riesce a prodursi con le proprie mani.
In genere il soggetto che si sceglie per fare un film rivela molto del suo autore. Lei perché ha fatto questa scelta?
Questa è una domanda, ci vorrebbero due puntate intere per esprimere questa domanda. In realtà ci sono tante motivazioni. È chiaro che io e Alessandro, l'altro regista di questo lavoro, siamo inclini a cercare nel nostro quotidiano dei tempi più umani, dei ritmi diciamo meno frenetici, e quindi cercare di riscoprire o ricogliere quello che forse nel brusio del quotidiano smarriamo, no? Che è un tendere, un mirare, un voler avvicinarsi a un equilibrio interiore, esistenziale, no? C'è una vita anche in fondo anche più semplice, ma non per questo meno appagante.
A chi cammina, a chi sta fermo, in de silenzio tutte e due, in Corsica c'è l'uomo che marcia, quando l'usiva di Ostia e Accio, la strada principale, si può scontrare, stomo, solo, sosacco, nanta e spalle, e chi marcia. Marcia perché, penso, mi dici a un amico che ha fatto un articolo, nanta stomo, marcia dopo la morte di Usoviolo, in due va. Un sisa, in tutti i casi, della postura di quello che cammina e la postura di quello che sta fermo solo in della natura, c'è una misura di se stesso.
È vero, e in qualche modo restiamo nell'ambito della ricerca, anche spirituale, con la nostra proposta musicale. Da qualche giorno su tutte le piattaforme disponibili torneremo ancora. L'ultimo disco di Franco Battiato che appare, secondo la valutazione di molti critici e dello stesso manager del cantautore siciliano, come una sorta di congedo dalla musica. Battiato non sta bene, vive la sua condizione nella casa di Milo, dove è stato fatto l'editing delle tracce, anche di quella che dà il titolo al disco e che fra poco vi facciamo ascoltare. L'artista l'ha incisa nel 2017, mentre a maggio scorso sono stati registrati gli archi. Quali siano le reali condizioni dell'artista è un tema che non ci appassiona, rischia di scadere nel gossip. Noi, anche come Mediterradio, esprimiamo tutto l'affetto per un autore che si è intrecciato spesso con il nostro percorso, sapendo interpretare con le sue canzoni sentimenti profondi, un'umanità ricca di spiritualità e talvolta anche una forte indignazione contro l'aridità e la cattiveria che ci circonda. In questo stesso brano, secondo un suo amico e collega, Yuri Kamisaska, c'è un chiaro riferimento al tema delle migrazioni fra i mondi, quindi a una dimensione religiosa, ma anche nel mondo, tema al quale siamo tutti chiamati a dare un contributo di verità.
Un suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.
Mediterradio non te frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna e di RCFM in Corsica.
Il mal di schiena è frequente nella popolazione quasi quanto il raffreddore. Nel 90% dei casi la causa è multifattoriale ed è correlata in genere con uno scorretto stile di vita. Ci sono casi lievi ma anche casi gravi che oggi possono essere affrontati grazie alla chirurgia. Il professor Pierpaolo Mura insegna all'Università La Sapienza di Roma ed è un ortopedico specializzato in chirurgia vertebrale a Cagliari e affronta le situazioni più disparate consigliando, quando opportuno, la soluzione chirurgica.
Quando parliamo di malattie, in percentuale siamo intorno all'8, 9, 10%. Laddove esiste una malattia, poi le malattie sono diverse, quella più comune, quella più frequente è la malattia degenerativa che viene denominata diciamo da tutti come artrosi. Quello che può cominciare a preoccupare è un dolore che diventa cronico, quindi perdura nel tempo, diviene invalidante, quindi limita la qualità della vita di quella persona, senza trarre beneficio dalle cure comuni.
Quindi quando tutte queste cose non funzionano è il momento di rivolgersi alla chirurgia?
Direi proprio di sì. La chirurgia è una tappa molto importante che può risolvere ciò che tutto il resto non riesce a risolvere. E l'indicazione della chirurgia è per cercare di restituire una qualità di vita migliore o ancor più normale.
Ecco, ma quanto può essere pericoloso un intervento chirurgico alla schiena?
Quanto uscire di casa e gli va addosso una macchina. È chiaro che la chirurgia vertebrale offre varie tecniche, varie particolarità, per cui diciamo che in linea di massima, se vogliamo parlare di una chirurgia che viene eseguita dal chirurgo vertebrale abbastanza di frequente, la percentuale di successo si avvicina al 95%, quindi una percentuale elevatissima, e la percentuale di complicanze è appunto un 3, 4, 5%.
Tra voi professionisti vi scambiate le buone pratiche, avete costituito un club?
Il club di chirurgia vertebrale è scaturito dalla mia mente e da quella di un mio caro amico e collega Massimo Balsano, che lavora a Verona. Gli obiettivi sono ambiziosi, nel senso che abbiamo messo insieme una quarantina di specialisti, ortopedici e neurochirurghi, giovani e meno giovani, che discutono intorno a dei casi, quindi noi potremo arrivare ad affacciarci, diciamo, a livello internazionale per arrivare a dare le nostre indicazioni, il nostro pensiero, rappresentando l'Italia.
Un congresso di un sindacato nazionale di giornalisti francesi si è tenuto giorni fa in Biarritz, in Costa Oasca francese. C'era parecchi invitati, rappresentanti di sindacati europei come quello di Aspagna o la Federazione Internazionale di Giornalisti. Il segretario generale di un sindacato di giornalisti italiani, Raffaele Lorusso, era presente e ha dichiarato che in un nuovo governo in Italia si può aspettare un dialogo più costruttivo, in tutti i casi si spera.
Diciamo che con il cambio di governo c'è sicuramente un clima diverso, c'è la disponibilità di chi nel governo adesso detiene la delega all'editoria, mi riferisco al sottosegretario Andrea Martella, la disponibilità a confrontarsi, la disponibilità a dialogare. Vedremo poi nel corso dei mesi se questa disponibilità si tradurrà in atti concreti.
Cosa avete chiesto voi?
Noi chiediamo innanzitutto che venga ripristinato il fondo per il pluralismo dell'informazione che era stato tagliato dal precedente governo.
Oggi la professione di giornalista in Italia è simile a quella dell'Europa, c'è un disimpiego importante.
I problemi che la stampa deve affrontare sono problemi globali, quindi la situazione italiana sotto il profilo della crisi del settore, della crisi dei mezzi di informazione tradizionali, soprattutto della carta stampata, sono molto simili a quelli che si riscontrano in altri paesi europei, ma anche nel resto del mondo.
C'è una precarietà di giornalisti oggi?
Sicuramente sì, il fenomeno della precarietà è in aumento, le aziende assumono sempre di meno e quando riescono a mandare in pensione i giornalisti non li sostituiscono, anzi li sostituiscono con giornalisti precari. Noi stiamo cercando di ottenere l'intervento del governo perché oggi in Italia nel settore dell'editoria è molto facile utilizzare il lavoro precario.
Chi non ha fatto i conti con il mal di schiena, stiamo troppo seduti, questa è una delle ragioni oggettivamente. E poi per quanto riguarda la crisi dei giornali, le nostre regioni ne sanno qualcosa, la Sardegna, la Sicilia e la Corsica, una crisi profonda che va avanti da molti e molti anni e non si riesce a vedere la luce oltre il tunnel. Dobbiamo sperare in questo dialogo, forse per il momento è l'unica cosa che abbiamo.
E nantairumadissimi e ascogliosi, con umorismo, dice Radio Raminterabio, ho detto in Corsica, i rumadissimi, a chi là si ridane. In quanto ai problemi, l'hai detto, Salvatore, i problemi di stampa in Corsica, come d'altronde in Sicilia, in Sardegna, sono quasi tutti gli stessi, i territori sono differenti, ma i problemi sono gli stessi, c'è disimpiego e precarietà. Il gruppo Le Varon, nato nel 1997 in Bastia, si è oramai sciolto e pertanto aveva deciso di mettere il canto corso e la lingua a un modo rock and roll. Per ora la sostituzione non si è fatta veramente. Lo sentimo questo gruppo Le Varon.
sono innaviato, come lasciano mio sonne a masochi da via poco, piera di mio volo. Libra sì, du gelo, di Venezia alta la deriva, l'anima immortale vento quassù, infine sicuro ne sei.
Ed eccoci agli appuntamenti dell'agenda. Cominciamo con la Sardegna.
Schillellenca in gaditano significa ragazzino, ma è anche un progetto promosso dall'associazione culturale Malik per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto si incrocia con la manifestazione I libri aiutano a leggere il mondo, giunta alla sua 10ª edizione, e che sabato mattina al liceo Eleonora d'Arborea propone l'incontro con la scrittrice Claudia De Lillo, conosciuta anche come Elasti, che poi di pomeriggio alle 18.30 alla Mediateca del Mediterraneo presenterà il suo romanzo Nina Sent.
Grande successo anche per questa nuova edizione delle Vie dei Tesori, la manifestazione che coinvolge 15 città e centinaia di monumenti in tutta l'isola. I siciliani turisti che in questo periodo affollano la regione potranno partecipare alle visite guidate e agli eventi in 8 fine settimana fino al 3 novembre. Gli organizzatori lo definiscono un grande museo diffuso in cui i palazzi nobiliari, i musei, le chiese, i luoghi normalmente meno accessibili e segreti diventano patrimonio di tutti. Il festival si è aperto il 13 settembre con 10 città, alle quali dal 4 ottobre se ne sono aggiunte altre 5. Fra le proposte di quest'anno anche alcune esperienze, come la possibilità di sorvolare la città di Palermo a bordo di un piccolo aereo di turismo.
Men dans la main, a bezza di teatro di Lisandro Peccini, ghia u programma di u centro culturale L'Alboro in Bastia, venerdì 25 ottobre, 8:30 di sera, a regia Diedio Peccini, Yoganu Fabien Ara e Natanael Maini.
E si conclude questa puntata di Mediterradio. Ringraziamo a Cagliari Serena Schifini in regia e Gigi Ceo alla parte tecnica.
In Bastia a tecnica c'era Patrick Besson.
Qui la nostra regia è affollata, i tecnici Daniele Marchese e Sergio Mezzatesta, e poi la nostra assistente Alessandra Tibolini e la nostra regista Eliana Ischeri. E vi ricordiamo il podcast.
Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis siciliens et sardes la semaine prochaine. Méditerradio continue. Votre serviteur Pierre-Louis Alessandri reste en votre compagnie. Nos intermèdes musicaux seront illustrés par Luca Tilocca, qui avec Canta o Bobo Lugursu interprète Sores de Mare, et par le Sicilien Giancarlo Parisi avec Rotta Rotteda. Au programme de ce Méditerradio, la situation de la presse internationale avec Anthony Bélanger, le secrétaire général de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, puis le professeur Jean Castella nous parlera de la Corse dans le monde étrusque. On ira aussi en Palestine avec le docteur Sabella, qui est le délégué de la Palestine au Conseil de l'Europe. Et on évoquera de nouveau le festival Artemar et de Bastia avec le comédien marocain Younes Bouab. Mais avant, comme chaque semaine, un rapide regard sur la presse de Méditerranée.
Méditerranée, la revue de presse.
Trois titres qui concernent l'Espagne, le Liban et conjointement l'Italie et la France. L'Espagne signe la fin du dernier grand symbole de la dictature. C'est le titre du journal espagnol El País sur la translation des restes mortels du général Franco qui, après 44 ans d'inhumation au mausolée de la Valle de los Caídos, rejoindra un cimetière de Madrid. Los Caídos, un mausolée grandiose qui avait été construit par des prisonniers républicains. Cette translation a été voulue par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Un gouvernement qui n'a pas réussi à constituer une majorité après les élections d'avril dernier. On revotera donc le 10 novembre prochain et les sondages ne sont pas très favorables pour les socialistes qui totaliseraient 27% des voix. Au Liban, le peuple est dans la rue, c'est la corruption au sein de l'État qui est une des principales cibles des Libanais qui manifestent, écrit le journal libanais L'Orient le Jour. Le niveau de corruption au Liban est réputé très élevé. Selon plusieurs études publiées ces dernières années, le Liban occupe la place de 138e sur 180 pays au dernier classement mondial de l'indice de perception de la corruption établi notamment par la Banque mondiale, écrit encore L'Orient le Jour. En Europe, la France et l'Italie vont devoir clarifier leur budget 2020 auprès de la Commission européenne. Une commission qui évoque une absence d'efforts budgétaires de Paris et de Rome, présentant des risques d'écart avec les règles européennes, écrit le site Econostrum. Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, a écrit au ministre des Finances des deux pays. En clair, l'Italie et la France ne font aucun effort pour améliorer l'état de leurs finances publiques et donc d'infléchir leurs dettes. De nombreux problèmes secouent la presse au niveau mondial et les difficultés les plus cruciales se retrouvent notamment en Inde ou au Mexique. Dans certains pays, les journalistes doivent lutter pour conserver leur vie. Une situation évoquée par Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, qui était présent à Biarritz, où se tenait le 101e congrès du Syndicat national des journalistes français.
Méditerranée, l'interview.
Selon l'endroit où on se trouve dans le monde, la presse ne se porte pas de la même façon. La défense de la profession ne se déroule pas de la même façon. Il y a des endroits où on lutte tout simplement pour maintenir ses droits. C'est le cas notamment dans les pays en Europe. Pour en gagner, dans le meilleur des cas, pour en gagner d'autres, mais en tout cas pour défendre au moins ce qui est acquis. Dans d'autres endroits, notamment en Afrique, dans quelques pays en Asie, les collègues cherchent avant tout à être payés pour ce qu'ils font. Et puis dans le pire des cas, c'est-à-dire dans les pays du monde arabe, au Mexique, en Inde, on est sur des situations où les gens luttent tout simplement pour leur survie, c'est-à-dire que écrire un papier, diffuser un son ou faire un reportage télé, ça va au-delà de la prise de risque, c'est presque parfois une condamnation à mort. Donc là, pour ça que la liberté de la presse dans le monde, on est toujours avec ce 2 novembre qui vient sur la journée internationale de l'impunité, on est toujours sur des pays compliqués, c'est-à-dire aujourd'hui on sait que c'est pas forcément les pays en guerre qui sont les plus dangereux pour les journalistes. On sait que c'est les pays comme le Mexique, comme l'Inde, comme les Philippines, sont des pays violents où l'impunité gagne de plus en plus.
Le président de la Fédération internationale a été élu il y a quelque temps. C'est un Marocain, c'était une volonté de porter à la présidence quelqu'un d'un pays émergent, disons.
Le congrès de la FIJ est complètement démocratique et se présente qui veut. C'est-à-dire que face à Younes Emjahed, donc l'actuel président de la FIJ, comme tu le disais, est Marocain, il avait face à lui un Canadien. Évidemment, cette élection est hautement symbolique, dans la mesure où notre ami Younes évidemment n'est pas un nouveau, puisqu'il a été premier vice-président de la FIJ pendant plusieurs mandats. Mais ce qui est nouveau, en revanche, depuis 1926, c'est que, pour la première fois, on a un journaliste qui est issu du continent africain et du monde arabe. C'est-à-dire qu'il est membre, lui, du syndicat national de la presse marocaine. Il a été président de ce syndicat pendant plusieurs années. Il est aujourd'hui président du Conseil national de la presse. Et pour nous, c'est une nouveauté, parce que c'est évidemment, géographiquement, c'est quelqu'un de nouveau, et puis c'est surtout quelqu'un qui a payé de sa vie, puisqu'on parlait tout à l'heure des violences faites aux journalistes. Younes fait partie de ces journalistes qui ont été emprisonnés. Il a été emprisonné 14 ans, tout simplement s'il a exprimé ses idées, et il a voulu défendre ses idéaux, et il l'a payé très cher. Et aujourd'hui, il est à la tête de la FIJ, et je sais qu'il fait un gros travail avec l'Afrique et le monde arabe, déjà, dans un premier temps.
Et puis, même les dirigeants de la FIJ se font canarder par la police, ça a été le cas pour vous en Israël.
Absolument, c'était en Palestine, c'était à Ramallah, au Checkpoint Calandia, en novembre 2018. On organisait un comité exécutif. On organisait une petite manifestation de soutien. Quand je dis une petite, parce que le comité exécutif, c'est 21 membres, plus quelques Palestiniens qui étaient avec nous. Une petite manifestation de soutien aux journalistes palestiniens. Et il se trouve effectivement qu'on a subi des tirs de gaz de la police israélienne, sans sommation, sans discussion. Je peux vous dire que c'était très violent, parce que certains de mes collègues qui ont eu de grosses difficultés à reprendre leurs esprits, à reprendre leur respiration, notamment une collègue de Colombie qui est asthmatique. C'est la première fois que ça nous arrive depuis 1926 qu'on se fasse attaquer comme cela. Mais ce qu'on touche du doigt, c'est le quotidien de nos collègues palestiniens. Eux, régulièrement, je dis pas au quotidien, mais régulièrement, ils se font tirer dessus, quand ils ne font pas tuer directement, en tout cas ils se font tirer dessus, avec ces gaz qui sont évidemment, qui n'ont rien à voir, en tout cas au niveau du contenu, avec ce qu'on a comme gaz lacrymogène en Europe, et ce qu'on connaît d'habitude en tout cas.
Quel est aujourd'hui le dossier le plus urgent de la presse internationale?
Le dossier le plus urgent, c'est les familles de nos confrères qui sont attaqués, qui sont emprisonnés, qui sont assassinés. Je rappelle qu'il y en a quand même 2 par semaine qui se font tuer dans le monde. Autrement, d'un point de vue international, on est toujours sur la Convention pour la protection et la sécurité des journalistes qu'on a mise en place et qu'on a lancée en 2017. Le but de cette convention est de la faire ratifier par l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'une meilleure protection des journalistes soit mise en place. Moi, je crois à l'action internationale. Je crois à l'action intergouvernementale. Il en va de l'avenir et surtout de la santé de nos collègues. Et quand on parle de santé et d'avenir de nos collègues, il en va surtout de l'avenir de la démocratie dans pas mal de pays.
Son renas e ondas que las han fagas emballar en su mar e su anto bisfrige dos ponti come carezze di un amante. Sa bellezza chiamus in coro nasce in forte dei tempos antigos sempre fieri di noci culturi sonati di tempi lontani. Gaisti pros precisa callista sul guerranos de alburmanos e di nosci ganti, nosci voci campani si loghi gavi. No pa mares, no pa muros, chi la pode ne brimare. No pa limbas, no pa modas, chi la potana partire. Semo caindo a sorre serentes, Jesus amenesi et ad indur. Eppur se nos è vicini, non ci abbracciare mai. Non c'è mari, non c'è muri, chi ci può non spiccare. Non ci lingui, non ci usi, non si spignarà. Non dimentichi che se sa bellezza dentro a te e chi non cambiasse mai e chi battasse. No pa mares, no pa muros, chi la può ne rimare. E non ci lingui, e non ci
corsicana. Quelle place a occupé la Corse dans le monde étrusque? C'est le thème d'une réunion qui a regroupé à Bastia historiens, scientifiques, décideurs, afin de réfléchir à la mise en œuvre d'un programme d'ingénierie qui s'étendrait à l'économie, à l'enseignement ou au tourisme. Le professeur Jean Castella.
Méditerranée, le reportage.
Aujourd'hui, on découvre que c'est la totalité de l'île, notamment la partie orientale, mais probablement la totalité de l'île, qui était imprégnée dans ce monde étrusque. Et donc cette journée a permis une rencontre entre des chercheurs et des décideurs pour voir comment envisager l'exploitation aussi de ce thème dans différents domaines.
Alors notamment parmi les domaines, il y a la place de l'Antiquité corse et méditerranéenne dans les programmes d'enseignement. Ça veut dire que ce n'est pas assez développé ?
C'est développé selon une vision, une historiographie ancienne qui est aujourd'hui totalement dépassé. Malheureusement, on entend encore, et dans les écoles, hein, c'est qu'en fait, on disait autrefois que tout commençait en Corse avec l'arrivée des Grecs en 565 avant notre ère. Or, ce qui a été démontré, notamment par des géomorphologues, par des historiens, c'est qu'en fait, il faut faire remonter beaucoup plus haut la participation de la Corse dans ce monde tyrrhénien, hein, puisque tyrrhénien, c'est l'équivalent d'étrusque. Et donc, c'est une vision complètement nouvelle. On a insisté, par exemple, sur la participation du peuple qui était dans le Cap Corse, hein, les Vanacini, tels que les appelleront les Romains, qui avaient des contacts quotidiens avec l'île d'Elbe, avec le littoral toscan. Et donc c'est une autre vision évidemment de l'histoire antique que l'on découvre. Et ce qui était intéressant lors de cette journée, c'était de ne pas se limiter entre chercheurs, mais au contraire de montrer immédiatement qu'on voulait qu'il y ait une traduction dans l'enseignement, par une modification des programmes, par de nouveaux outils pédagogiques. Et c'est ça donc qui a été mis en chantier hier.
Et puis alors, d'autres pistes auxquelles vous réfléchissez, c'est également la création d'un tourisme lié à l'étruscologie, je dirais. Bon, ça c'est assez nouveau.
Ah, c'est totalement nouveau, parce que cette thématique étrusque, qui est très porteuse, il faut bien le dire, à l'extérieur, la moindre exposition sous les étrusques attire un monde considérable. Elle n'est pas exploitée jusqu'ici en Corse. Un des aspects de cette valorisation autour des Étrusques, c'est de former des guides, notamment des guides conférenciers ou tous ceux qui travaillent dans la communication, de les former pour être vraiment à un niveau très élevé, à un niveau d'excellence, pour permettre à ce moment-là le montage de produits qui seraient un peu les produits équivalents de ce qu'on trouve aujourd'hui dans le Latium et en Toscane. Ça, c'est également générateur d'emplois et c'est en cela que la démarche, elle est également économique.
Et quels seraient les sites corses qui seraient mis en avant ?
Comme site, évidemment, on a Aléria avec donc le musée et le site archéologique. Mais il y a bien d'autres espaces qui se prêtent justement à cette présentation. Je viens de parler du Cap Corse, par exemple, hein, et là, en fait, on parlerait à partir des paysages, à partir du vécu hein, de ces populations sous l'Antiquité. Mais il y a maintenant de plus en plus de lieux, de territoires qui permettent cette présentation. Je prendrai deux exemples. Le musée de Bastia, où l'on a installé, avec le conservateur, on a installé une salle depuis 2 ans, où il est présenté, en accueil justement de ce musée, il est présenté des pièces de l'Antiquité, notamment une coupe étrusque avec une inscription, hein, et qui permet de créer un véritable itinéraire. Et donc on peut évoquer les Étrusques également à Bastia. Mantinon, ce nom était attaché dans l'Antiquité à la région de Bastia, bien probablement il s'agit du dieu étrusque Mantus. Et donc vous voyez que même là à Bastia, on peut trouver des liens très forts avec les Étrusques.
Alors finalement, Jean Castella, la Corse, elle a quelle place dans le monde étrusque ?
C'est l'excellente question, parce que justement, les chercheurs parmi les plus éminents, Dominique Briquel et également donc Gilles Van Hems, ils ont exprimé publiquement que jusqu'ici, les chercheurs finalement étaient sur une voie qui était une voie un peu erroné. C'est-à-dire qu'ils partaient toujours de l'extérieur. Et aujourd'hui, en fait, la problématique, elle part du peuple autochtone. C'est-à-dire exactement comme en Sardaigne, on va partir des Sardes, en Sicile, des Sicules, des Sicanes, des Élymes. Eh bien ici, il faut partir justement de la population autochtone. Et à ce moment-là, le problème, c'est de savoir comment cette population était intégrée dans ce qu'on appelle le monde étrusque. Il ne faut pas dire que les Étrusques sont venus en Corse, mais en fait que la Corse a participé au monde étrusque progressivement, mais en conservant ses spécificités.
On dit même que les Corses auraient fondé Populogne. C'est une légende ou il y a un peu de vérité ?
C'est un texte antique qui le dit. Alors aujourd'hui, les historiens conviennent qu'en fait ce n'est pas le cas. Hein, ce ne sont pas des Corses qui ont fondé Populogne. Mais cette tradition très ancienne révèle les rapports très étroits entre Populogne, qui était le grand gisement de fer, les historiens l'appelaient la Pittsburgh de l'Antiquité, hein, pour dire. Et donc ces rapports très étroits avec la Corse sont attestés. Et notamment par un tesson sur lequel on a trouvé une inscription, un tesson du 5e siècle avant notre ère, sur lequel il est écrit « Cursiqué ». C'est-à-dire le Corse. Ce ne sont pas des Corses qui ont fondé Populogne, mais les relations avec Populogne étaient extrêmement intenses.
Le Conseil de l'Europe fête cette année ses 70 ans. Il réunit la représentation de 47 États membres et regroupe 820 millions de citoyens avec son siège à Strasbourg, où l'équipe de Kantara a été invitée. Parmi les délégations représentées, celle de la Palestine, qui est considérée comme un État à part entière par le Conseil de l'Europe, Violette Rafidi de la radio Voix de la Palestine a rencontré le chef de la délégation palestinienne, le docteur Bernard Sabella.
En 2012, le Conseil de l'Europe a accepté que le Conseil national palestinien a rejoint au Conseil en tant que membre associé du programme pour la démocratie du Conseil de l'Europe. Le programme pour la démocratie est un programme établi par le Conseil de l'Europe sur la base au renforcement et de l'approfondissement des relations entre le Conseil de l'Europe et les parlements des divers pays, tels que la Jordanie, le Maroc, la Palestine et les pays d'Asie centrale. Mon collègue et moi avons toujours été en contact avec le Conseil de l'Europe et nous invitions à participer aux réunions du Conseil. Docteur Bernard, de 2012 à 2019, quelles sont les réalisations de la question palestinienne à travers votre travail en tant que chef de la délégation palestinienne au Conseil de l'Europe? Chaque fois que j'ai participé aux réunions du Conseil de l'Europe, j'étais fier et satisfait de la présence internationale de la Palestine, ainsi que les membres du Conseil donnent beaucoup d'importance de la présence palestinienne au Conseil, considérant que toutes les personnalités palestiniennes ont souligné que la représentation de la Palestine au Conseil était une représentation engagée. Notre objectif n'est pas de critiquer, mais de préserver notre position politique et sociale, car les objectifs du Conseil européen ne sont pas seulement politiques, mais ont également des objectifs sociaux, démocratie et de défendre les droits de l'homme. Fondé sur un consensus international sur le principe de la solution de deux États, pourquoi l'État palestinien situé à la frontière de 1967 n'est pas reconnu par tous les États membres du Conseil de l'Europe? L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a affirmé son soutien à la solution de deux États. Les députés de tous les États membres du Conseil ont voté en faveur de cette résolution. Mais le Conseil de l'Europe et l'Assemblée générale ne sont pas un conseil exécutif. Par conséquent, le débat permanent entre moi et les membres du Conseil de l'Europe est que l'un des objectifs du Conseil est d'instaurer aux valeurs de paix la justice et de défendre les droits de l'homme. Pourquoi ne prenez-vous des mesures contre les violations israéliennes contre le peuple palestinien et pourquoi vous ne reconnaissez pas l'État palestinien? Mais toujours, ils me donnent la même réponse, qu'ils ne sont pas un conseil exécutif.
On revient sur le festival Artemar et de Bastia avec le comédien marocain Younes Bouab qui était présent pour la présentation du film Le miracle du saint inconnu d'Alaa Edim Aljem qui parle de la religion avec humour.
Oui, je dirais, en tout cas pour le cas de ce film, je trouve que c'est très original. En fait, Alaa a trouvé un angle d'attaque du sujet qui est peut-être pas vraiment son but. Hein. Son but était avant tout de faire un film de cinéma. Mais il traite de ce sujet de manière légère, de manière détournée. Et puis il est bienveillant avec tous ces personnages qui sont un petit peu des bras cassés. Donc du coup, j'ai l'impression que le message passe d'autant mieux.
Aujourd'hui, quand on est un réalisateur issu du Maghreb et qu'on vit au Maghreb, notamment au Maroc, la parole audiovisuelle est libre ou bien il y a des codes qu'il faut respecter?
Alors, relativement. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, en tout cas en termes de cinéma, on a un petit peu le droit de dire plus ou moins ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de faire un bon film de cinéma. Et au Maroc, on pourrait croire le contraire, mais on peut parler quasiment de tout au cinéma, ce qui n'est peut-être moi le cas pour la télé, mais un petit peu comme dans toutes les télés nationales où il faut un petit peu respecter certains codes. Pardon.
Malgré tout, vous travaillez beaucoup aussi avec la télévision marocaine. C'est un moyen d'expression qui est libre au Maroc où vous pouvez exprimer votre créativité.
Oui, alors c'est ce que je disais, à la télé c'est moins libre parce qu'on rentre chez les gens, donc c'est une société assez conservatrice, donc voilà, par exemple, un couple qui s'embrasse, ça serait plus ou moins malvenu, mais de la même manière, je pense que ça serait malvenu à une heure de grande écoute, par exemple aux États-Unis, de montrer une femme seins nus, alors que c'est tout à fait possible en Espagne, en Italie et peut-être en France, donc voilà, c'est un peu en fonction des sociétés.
Vous êtes acteur, scénariste, vous faites même des séries, vous jouez dans une série sur Canal+, Cannabis, aujourd'hui. Comment vous situeriez la position du cinéma marocain aujourd'hui, sachant que pour le Maghreb, on a toujours tendance à dire que la Tunisie est plutôt en avance?
Alors, sur ce point-là, je serais un petit peu chauvin. Je dirais que c'est nous, les Marocains, qui sommes en avance. On a une industrie qui est plus prolifique, plus attrayante et plus effervescente. Après, c'est vrai que les Tunisiens se défendent bien et qu'ils font des films de qualité, des films qui sont primés dans les festivals internationaux. Ça nous arrive aussi à nous, Marocains, et je dirais qu'on est un petit peu sur au même niveau. En tout cas, nous sommes les deux lièvres du cinéma nord-africain ou peut-être africain.
Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un festival comme celui de Bastia ?
Moi, ce que j'attends, c'est de voir des films, c'est de rencontrer des gens, de faire du réseau et puis surtout de parler cinéma, pardon, de vivre cinéma. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est évidemment le cinéma. Et puis dès qu'on y touche, en le regardant, en le faisant, en participant à un film, ça nous fait du bien.
Aujourd'hui, le cinéma, c'est plus une industrie qu'un art ?
Malheureusement, parfois, mais il faut de l'argent. C'est un peu l'art qui demande le plus de financement, le plus d'argent. Ce qui se passe, c'est qu'au Maroc, en fait, tous les films, tout ce qui se fait à la télé est financé par les pouvoirs publics. Et c'est là où je me dis que ça serait bien d'avoir un peu de business, un peu d'industrie, et puis un peu des producteurs privés qui viennent mettre un petit peu d'argent dans un film pour essayer de, eux, faire un peu d'argent, et nous, de l'autre côté, faire de l'art avec l'argent qu'ils nous donnent.
Artemar, c'est un festival au milieu de la Méditerranée, sur cette île qu'est la Corse. Il n'y a pas de petit festival ?
Non, il n'y a pas de petit festival comme il n'y a pas de petit rôle. Voilà, il n'y a que du cinéma.
Chiovi, che chiovi, come chiovi Aiata a fare i provi e l'usurci si marita Ca corpula di sita e rota sta ruteggia Pane a feggia, la missa ci suonò e l'angelo calò. Ah, si muligia con lo sali, sa mancia me con mari e chi già con la cito, sa mancia me marito e cassotta non ci chiò, aiata fa li provi da sera alla mattina. Yoka chi yoka passo tempo, carrota che gira, chi vota e si ferria, chi dice, ci passi chi to anni, ci passi chi to muri, rota ruta già sempre gira, io quattro quattro fanno otto, e scarica lo botto, la ceggi con gli ali, e scarica canali, la ceggi con le pinni, e scarica e patini, tu latti di
On se quitte sur ces rythmes siciliens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas nos rendez-vous avec la Méditerranée, la chronique quotidienne Mare Latino à 7h10 et Cantara le jeudi à 21h. Bon week-end.